Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là.
Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute.
Catherine Rossi, enseignante à l'Université Laval. En fait, merci d'être là tout d'abord. Ça, c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis c'est avec, malheureusement, la vague de féminicide qui frappe le Québec en ce moment. J'ai la chance d'avoir des auditeurs et des auditrices du podcast qui me recommandent des invités. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit. Hey, avec ce qui se passe présentement, je pense que ce serait vraiment pertinent que tu reçoives Catherine Rossi, qui enseigne à l'Université Laval. Et j'ai pas hésité, j'ai comme fait confiance à cette personne-là, puis j'ai fait « go ». J'ai l'impression aussi que c'est... Je pouvais pas me tromper en recevant une enseignante, on dirait. Mais je sais pas exactement qu'est-ce que tu fais. Ta job en soi, c'est quoi?
Alors, on est des professeurs-chercheurs, c'est-à-dire qu'enseigner, oui, bien sûr, mais on fait aussi beaucoup, beaucoup de recherches à côté. Donc, En criminologie.
Ça, là, mettons, là, quelqu'un... C'est quoi la criminologie?
Alors, c'est tout un champ finalement d'études qui est concentré sur essentiellement le crime, la victimologie, etc. Donc dans ces causes, donc les raisons pour lesquelles on passe à l'acte, par exemple, dans ce qu'on va appeler des émanations, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pendant, comment et tout ça, et dans l'après. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de le dire un peu. Simplement, nous, on est un peu les personnes qui se demandent qu'est-ce qu'on fait après, quand on se retrouve avec quelqu'un qui est passé à l'acte, mais qui est encore très jeune et qui a encore une vie à faire. Et nous, on veut savoir où, comment, à l'intérieur des murs, à l'extérieur, la réinsertion, etc. On fait ça aussi avec les personnes victimes. Est-ce que la victimisation, elle peut se réparer? Est-ce qu'on peut reprendre une vie? Si oui, dans quelles conditions? Comment est-ce qu'on peut protéger les personnes? Tout ça, donc c'est un monde qui donne accès à énormément de professions qui sont aussi très très différentes, essentiellement autour de personnes qui sont dans des conditions plus de vulnérabilité ou de mesures contentieuses, c'est-à-dire qui sont dans des cadres institutionnels, prison, centre et tout ça.
C'est quand même, tu sais, c'est chargé.
C'est gros,
c'est
oui.
C'est gros. Moi, je fais juste lire ce qui se passe dans les nouvelles, puis ça me chamboule. Toi, tu l'étudies, tu le recherches, tu l'enseignes. On reviendra, mettons, à ce qui se passe présentement dans les nouvelles un peu plus tard. Je veux qu'on continue à clarifier peut-être ce que c'est. Donc, c'est quand même un... Fait que j'imagine qu'il y a beaucoup de cours de psychologie humaine. C'est-tu beaucoup ça?
Alors, la crimino, c'est super intéressant parce qu'on va, si tu veux, voler ou piquer ou emprunter les méthodes de plein de disciplines. Donc, il y a quand même un bon volet psychologique qu'on va appeler la psychocrime, la psychocriminologie, où on va étudier un peu tout ça. Mais il y a aussi d'autres volets qui sont tout aussi intéressants et qui sont absolument nécessaires. Il y a un volet plus socio, où là, on va étudier aussi, non pas ce qui se passe à l'intérieur de la tête des gens, mais aussi comment ils fonctionnent entre eux, toutes les dimensions sociales qui rentrent en considération, les dimensions aussi humaines, les relations, le rapport avec les institutions, tout ça. Ça, c'est un champ, moi, qui m'intéresse beaucoup.
Donc, un peu la responsabilité, entre gros guillemets ici, de la société.
Oui, c'est une bonne manière de le dire, tout à fait. On regarde la part qui appartient à la personne elle-même, la part qui appartient à la société et aux autres. Parce qu'on a beau être plein d'individus, la société, c'est pas seulement l'addition de tous ces individus, il y a quelque chose qui est plus grand qu'eux aussi, dans le sens où quand on prend des décisions collectives, on les prend rarement pour nous-mêmes. Mm-hmm. Puis il y a un volet assez juridique aussi, on étudie la loi... dans un peu dans tous les sens, les définitions. Puis Ce qui est très bien avec nous, par exemple, en crimino, par rapport au droit, c'est qu'on regarde aussi beaucoup comment les frontières changent, comment les infractions se modifient avec le temps et quelles sont les conséquences immédiates pour les gens. Par exemple, je ne sais pas moi, décriminaliser la possession de drogue, etc. Donc à chaque fois qu'il y a une modification législative, ça a un impact assez rapide sur la société. Et ça, on l'étudie de près.
Au Québec, est-ce qu'on est bon pour faire ça? Parce que je sais qu'aux États-Unis...
Je pense qu'on est le meilleur.
C'est vrai?
Oh, oui, oui, oui.
Fait que quand une loi change, on réagit rapidement?
On est rapide. Okay. On est quand même assez rapide au Québec. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Hein. Donc on est...
Lesquels?
On va vite, on réagit. Je pense qu'on a quand même... Un pays où on a des gros moyens, on nous donne aussi les moyens de faire de la recherche, on prend des décisions souvent assez complètes, assez rapides, mais on prend le temps de les tester. Alors des fois on est content parce que ça marche, des fois un peu moins parce qu'on est allé un peu vite, mais ouais. J'aime mieux ça que des endroits où c'est plus long.
Ouais. Quand vous dites que vous faites de la recherche,
oui.
Dans ton cas à toi en criminologie, ça veut dire quoi? Est-ce que tu traites des patients? Est-ce que tu fais des entrevues? C'est quoi?
Non, alors ça consiste vraiment à avoir des lunettes et passer sa vie sur des ordinateurs. Non, alors on a deux grandes formes de méthodologie. On a une méthodologie qu'on appelle quantitative. Donc on fait énormément de statistiques. Certains d'entre nous, beaucoup plus que d'autres. Donc on est souvent assez spécialisé dans une méthode. Les stats, on les fait à partir de plein de choses. Donc ça peut être les dossiers des gens, effectivement. Donc on n'a pas de patients ou de clients, mais on a leurs dossiers. Donc, on va chercher des données dedans et puis on fait des compilations, ouais. On essaie de voir des grandes tendances, faire de la prédiction aussi. On fait des stats aussi à partir de, par exemple, de dossiers judiciaires. Voilà, donc il y a toutes sortes de choses. Et on fait, d'un autre côté, ce qu'on appelle des méthodologies qualitatives. Et ça consiste à aller sur le terrain. Donc, on va rencontrer des gens, on va observer des institutions, leur fonctionnement. Certains d'entre nous, on est spécialisés la consultation d'archives, par exemple, ou l'étude de lois, de règlements, de toutes sortes de documents préparatoires. Mmh. Voilà. D'autres, on est des gens qui s'infiltrent sur le terrain. Donc, on va aller passer du temps dans une institution ou dans un monde en particulier, puis on va étudier comment ça se passe. Voilà. Donc, ça, c'est les grandes méthodes. Souvent, on fait un peu les deux. Donc voilà, moi j'aime bien toucher, je suis meilleure plutôt dans une que dans l'autre.
Laquelle?
Mais on essaie de faire. Moi je serais plutôt entre guillemets quali, c'est-à-dire j'irais plus facilement sur le terrain. Mais là, sur ma dernière recherche, je fais des stats aussi.
Ok. Ouais.
On fait un peu les deux, ça dépend. On choisit la méthode en fonction de l'objet de recherche qu'on a.
Et là, tu fais des stats sur quoi dernièrement?
Là, en ce moment, on étudie, dans le centre de recherche dans lequel je travaille, on est beaucoup dans les problématiques de la violence faite aux femmes, dont je suppose on va parler tout à l'heure.
Ben oui, certainement. Oui,
absolument. Voilà, puis je travaille aussi à accompagner des programmes, à la cour ou pour le ministère de la Justice.
Puis là, qu'est-ce que tu dans tes recherches, qu'est-ce que tu... Parce que je sais rien, OK? Moi, je suis un humoriste qui anime une télé-réalité. Je suis très loin.
Bon, c'est pas grand-chose non plus.
Mais c'est juste qu'avec la vague de féminicide qui est arrivée, puis je veux dire, c'est pas nouveau, là. Ça, dans le sens... La seule chose que j'ai vue, c'est que il y a certaines petites tendances quand même où la plupart des hommes qui passent à l'acte ont des antécédents judiciaires. Comment on fait pour prévenir ça? Parce que je lisais encore ce matin le papier de Patrick Lagacé où il expliquait qu'une jeune femme est très inquiète pour une de ses amies qui est dans un couple violent. Et tant que son amie porte pas plainte, il y a comme rien à faire. C'est dur de faire de la prévention, on dirait.
C'est extrêmement dur. Voilà, c'est extrêmement dur parce que ce qu'on va appeler la violence conjugale ou la violence intime, intrafamiliale aussi, parce qu'elle touche la plupart du temps aussi beaucoup les enfants. Ce qu'il faut comprendre avec ça, d'abord, c'est que les femmes ne s'en rendent pas compte dans l'immense majorité des situations. Ou alors elles vont le comprendre un peu tard. D'accord ? Donc là, on associe beaucoup, et à mon avis c'est très dommage, la violence conjugale à une femme battue. La femme battue, c'est le dernier stade. Quand on est rendu là, on est déjà dans une situation où on a une chance sur deux d'avoir un homicide, même pas volontaire. Il suffit juste d'un seul coup pour que la femme tombe dans un cadre de porte et décède de ses blessures. Donc là, on est déjà trop tard. Déjà trop tard. Donc il ne faut jamais penser à prévenir en termes de femmes battues. Pourquoi ? Parce que quand... En tout cas, je vais m'expliquer.
Ouais, hein. Ouais, on a le temps.
Quand on pense ou quand on fait ces associations-là, les femmes ne s'inquiètent pas avant le premier coup. Ils vont s'imaginer que la violence conjugale, ça commence quand on prend des coups. Ça commence très, très, très en amont. Et ça, c'est très important qu'on le comprenne. Et donc, le monde d'avant, le premier coup, il est extrêmement complexe. D'abord à prévenir, ensuite à voir, ensuite à décrire. Un homme ne commence pas par frapper sa conjointe. Ce n'est pas du tout comme ça que ça commence. Je ne pense même pas que dans la plupart des cas, il commence volontairement. Donc, il y a toute une construction, ce qu'on appelle le cycle de la violence conjugale, où au début c'est très très anodin, puis ça se guérit, le couple se recolle, ça repart bien, puis on passe un peu dans une autre phase et ça continue, puis ça revient, ça se recolle. Et ça a des effets assez aussi intéressants que finalement très dangereux. La première, c'est que une femme entre guillemets normale, au début, elle s'en rend pas compte. D'accord. Donc tout ce qui commence à déraper un peu trop de jalousie, un petit peu trop de... On va associer ça à de l'amour. Mmh. Ouais, il est un peu jaloux, ça veut dire qu'il m'aime. Ou il est un peu insécure, ou il est fatigué en ce moment. Et donc on va avoir... Je grossis énormément, ouais, hein, on n'est pas toutes comme ça, nous les femmes. Là, je ne veux pas sortir des gros clichés non plus, mais on va avoir tendance très facilement à aller essayer de guérir la relation. Au lieu de guérir, entre guillemets, mais de la remettre droite et l'adoucir, au lieu d'avoir le réflexe de dire « Ok, ça ne matche pas, lui et moi, puis il faut qu'on se quitte. Mm-hmm. » Donc, on va avoir un réflexe complètement contraire, c'est qu'on va vouloir rester dans la relation et la protéger, au lieu d'y voir un danger.
Parce qu'à ce moment-là, c'est de la violence plus psychologique.
Ouais, mais c'est même pas encore de la violence, en fait. Je sais pas, après la définition de la violence... fouille-moi, c'est qui pourrait nous la donner ici,
ouais, c'est assez large.
Mais c'est comme ça que ça commence, en tout cas. Donc, c'est un peu psychologique, oui. C'est le début de ce qu'on va appeler une relation d'emprise. Donc,
c'est ça.
Des petites insinuations, des petites...
Avoir le contrôle un peu.
Voilà. Exactement. Donc, ça va se faire un peu par l'économie, par exemple, une manière de vérifier les finances, de contrôler comment sert de la carte de crédit, etc. Ça, c'est... Je voudrais mettre une nuance importante. On n'est pas dans l'infraction, là, et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'un homme qui demande à sa blonde « Qu'est-ce que tu as dépensé comme argent aujourd'hui ?» C'est pas un gars violent, là, on va pas mettre ça en prison, ça fait aucun sens. Et c'est ça qui est difficile, c'est à partir de quand ça commence à déraper. On sait pas trop, ça change dans chaque couple. Et c'est pour ça que la prévention, elle est compliquée. Et la prévention, elle n'est surtout pas pénale ou judiciaire. Ça ne sert à rien qu'on fasse des profils en disant « si t'as les yeux de telle couleur et la face de telle couleur, méfie-toi, là, tu t'en vas. » Ça ne marche pas comme ça du tout.
C'est ça.
Donc voilà, c'est aussi la manière dont le statut des femmes dans la société en général qui va faire qu'elles vont accueillir plus facilement certains comportements en les trouvant plus normaux, plus habituels ou en vouloir les excuser,
les banaliser,
parfois les cacher, les banaliser.
Alors que c'est des comportements qui se veulent problématiques.
Qui vont facilement commencer à le devenir et on peut vivre je pense pas qu'il y ait un seul couple où il n'y ait pas une dimension problématique à l'intérieur. Donc, si on veut vraiment prévenir la violence conjugale, il faut arrêter le couple et l'amour. Ça va être beaucoup plus efficace, ce qui serait quand même pas une bonne idée. Et donc, je pense, moi, ce qu'on est en train de réaliser en ce moment et qui est le plus... Moi, ça me passionne, c'est qu'on commence à se rendre compte qu'il va falloir tous qu'on s'y mette. les gars, comment ils sont, de quoi ils ont peur, comment ça rejaillit peut-être sur la conjointe, les femmes aussi, et les jeunes femmes surtout. Qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable, qu'est-ce qui peut être un signe, pas un signe, l'entourage, ceux qui voient pas, ceux qui se posent des questions, ceux qui ont des doutes, et les messages qu'on passe dans la société, beaucoup. Donc ça vient toucher la société au complet.
Les messages, tu veux dire?
Mais la manière dont on en parle. Si on renvoie toujours le message que les femmes battues, on finit par les tuer, personne ne se sent concerné. Je veux dire, une femme se lève le matin, elle n'est pas battue, elle ne se dit pas que ça va arriver chez elle. Sauf que c'est le crime le plus démocratique au monde. C'est tous les milieux, ça peut popper n'importe quand. Et non, il n'y a pas de profil de l'agresseur en partant. Là, on ne peut pas...
Non, c'est ça, non.
Ça arrive à tout le monde. Voilà. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais alors après, on peut le voir de deux manières. Soit on se dit que c'est trop gros et on laisse tomber. Soit on s'attaque à la montagne. Mais c'est ça la recherche. C'est s'attaquer à la montagne.
Mais c'est une bouchée à la fois. C'est pour ça que tu es là, tu sais, je pense. Attaquons-nous à la montagne. Allons-y, on monte. Donc ça commence souvent de manière plus. Moins claire, disons, moins évidente.
Et pas d'un coup.
C'est ça. Le prochain stade, c'est quoi? Parce que là, on dit que souvent, au départ, la femme s'en rendra pas compte et l'homme non plus, parfois. La prochaine étape, c'est quoi? Là, on entre dans la violence psychologique?
Oui, alors elle se manifeste... Ça peut se manifester de beaucoup de formes différentes. Donc là, au tout début, c'est assez anodin. Je dirais que les premiers signes, on les a dans absolument toutes les familles. Il y a des chicanes, des conflits, des tensions. C'est tout à fait normal autour des enfants, de l'éducation, des finances. Et puis, il y a des vécus personnels, des manières de résister à la colère ou pas dans un couple. Voilà. L'étape d'après, c'est l'installation... d'une relation donc on appelle d'emprise, un peu de domination, mais qui n'est pas complètement comprise ni par l'un ni par l'autre. C'est-à-dire que le conjoint va tenter des choses, par exemple, commencer à demander à quelle heure tu rentres ce soir, envoie-moi des photos du restaurant où tu es avec ton ami, sous-entendu, je ne te crois pas que tu es vraiment au resto avec ton ami, j'ai besoin que tu valides. Des petites choses comme ça. Et là, la femme, généralement, répond. Et c'est un peu là où on essaie de travailler aussi, surtout c'est là où je pense que c'est aussi très social et pas seulement juste un problème de droit criminel, de prison et de violence, parce que les femmes ont souvent tendance, au lieu de dire « Ouh, là, tu dépasses un petit peu les limites, non, je t'enverrai pas de photos », au contraire, elles vont souvent avoir tendance à en envoyer et à commencer à anticiper, c'est-à-dire qu'elles vont... Pas toutes, hein, encore une fois, je grossis les traits. Mais la femme va commencer à se prendre elle-même en photo avec ses amis pour rassurer son conjoint avant même qu'il commence à avoir peur. Et donc, c'est comme ça que la relation d'emprise s'installe. Et c'est ça qui est très difficile parce que les femmes, au bout d'un moment, vont se sentir responsables aussi de tout ça. Et c'est là que la cachette commence. La cachette commence parce que la femme, elle sait à la fois qu'elle est pognée dans un truc où c'est difficile de sortir... à la fois elle veut cacher, à la fois elle n'est pas trop sûre de ce qui se passe, elle ne comprend pas trop, et à la fois elle pense qu'elle est responsable elle aussi. Donc elle se remet énormément en question.
Et c'est là où
Et c'est là où elle commence à se taire et à ne pas trop parler, et c'est là où ça s'installe. Et je te dirais, c'est tout à fait, entre guillemets, acceptable ce qui se passe jusqu'au moment où le silence commence à s'installer, où l'isolement commence à s'installer, où la femme... va commencer à moins parler à ses amis, moins sortir le soir. C'est tellement plus pratique de ne pas aller au resto avec ses amis plutôt que d'y aller, d'envoyer un selfie, de rentrer tôt, etc. Finalement, on ne sort plus. Et jusqu'au jour où on va ressortir. Et là, ben, le conjoint est tout étonné. Comment ça, tu sors? C'est quoi qui se passe, là? Donc là, on est un peu dans le stade 2, etc. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des numéros à ces stades. Et c'est comme ça, voilà, que ça s'installe. C'est ça qui est difficile à voir et à prévenir. Ouais. Ouais.
Et quand tu dis que c'est là que c'est plus social, c'est que la femme, avec le temps, c'est un peu rendu responsable de son conjoint, de le rassurer, de s'occuper de lui. Est-ce que c'est ça? C'est pour ça que tu dis que c'est là que on dit peut-être aussi que ça commence à être comment on traite la femme dans notre société qui fait qu'à ce point-là, elle va se sentir responsable de rassurer son conjoint?
Oui, ben je mettrais peut-être un peu plus... D'abord, je répéterai jamais assez, mais toutes les femmes sont extrêmement différentes.
Ouais.
Puis la violence conjugale, c'est pas que dans des couples hétérosexuels non plus, donc il y a quand même tout un tas d'affaires, je pense, qui est très, très important de rappeler. Donc là, on parle plus de situations qu'on voit souvent, malheureusement, quand elles se terminent par des uxoricides, des homicides de la conjointe, finalement. Mais oui, là, en fait, là où je pense que c'est très social, c'est que, à mon avis, ça concerne beaucoup plus de gens que les palais de justice, les gouvernements et les professionnels de la criminologie. Ça concerne tout le monde. La prévention de la violence conjugale, elle commence quasiment à la manière dont on élève ses petits garçons ses petites filles à la maison, où on apprend à se respecter l'un l'autre, où
on apprend aux jeunes garçons à montrer sa vulnérabilité, à pleurer, à être qui a envie d'être, à pas seulement être fort, puis un petit gars, ça pleure pas, ça, t'sais.
Mais il y a ça aussi, puis on donne énormément de cours dans les écoles à propos de ce qu'il faut pas faire. Donc j'y assiste, moi, en ce moment aussi. On voit les changements des programmes dans les écoles, c'est très intéressant. On apprend aux jeunes, c'est quoi, des agressions sexuelles, etc. Et ça, c'est super, mais prévenir la violence conjugale, c'est aussi apprendre à nos enfants comment est-ce qu'on aime bien. Et j'ai envie d'avoir un discours un peu optimiste, parce que c'est sûr que si on lit les journaux, qu'on regarde ce qui se passe en ce moment, c'est un peu déprimant. Mais il y a plein d'espoir. Moi, je vois ça de manière extrêmement positive. On est en train de réaliser vraiment quelque chose. On se rend compte qu'on peut tous jouer un rôle dans ce changement-là. Que ce changement social, ça va aider les femmes à pu vivre ces situations-là, mais ça va aider aussi beaucoup les hommes, parce qu'en ce moment, ils ont une pression énorme aussi, les pauvres gars, là, avec entre MeToo, la violence conjugale, etc., mais en même temps... Bon, voilà, puis je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire tous ensemble et qui va être super constructif à long terme.
Je suis très d'accord avec toi, puis je suis heureux de savoir que tu es optimiste et je veux pas éteindre cet optimisme-là. mais est-ce que on réalise pas tout le temps... Est-ce que cette prise de conscience-là arrive pas tout le temps après des décès? Tu sais, après des événements tragiques irréversibles?
Oui, c'est sûr que oui. C'est le propre... Il y a des années, on est sur le terrorisme, des années, on est sur... voilà, ça monte et ça descend, mais est-ce qu'on a vraiment le choix?
Mais...
Après, nous, en recherche, on travaille ces domaines-là tout le temps. On n'attend pas que ça pète. Là, nous, le centre de recherche dans lequel je suis, il est quasiment né la même année que ma naissance à moi, là, donc en tout cas dans ses premières formes. Il y avait beaucoup de femmes qui ont écouté depuis les années 70. Hein, ce que je vous raconte ce matin, c'est pas nouveau.
Puis
c'est même. Heureusement, je représente pas la recherche. Tout ce que je vous dis, on le sait depuis tellement longtemps. J'invente rien là. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des périodes effectivement où les gouvernements vont plus écouter, où le grand public va plus écouter. Il y a des moments où on est plus prêt, voilà. Après, encore une fois, faut pas... C'est un peu normal, je veux dire, une population a tellement d'informations à avaler dans une même année, là.
Surtout à ce temps-ci.
Voilà, il y a l'écologie, il y a le machin, il y a la politique, il y a le truc, il y a la... Bon, on y va avec ce qu'on peut.
Ouais.
Je trouve que... Voilà, déjà, donner accès à l'information comme tu es en train de faire, c'est nouveau et c'est génial. Je pense que c'est de notre devoir aussi, nous les chercheurs, de descendre un peu de nos tours d'ivoire, puis d'aller carrément vous aider un coup à vous donner un coup de main.
Ouais. Ben merci vraiment d'être là. Puis c'est vrai, je suis d'accord. Mais là justement, le gouvernement a dit qu'il allait. Le premier ministre Legault a mentionné en conférence de presse aux hommes d'arrêter d'être violents. Ils ont investi de l'argent, mais est-ce que l'argent vraiment se rend? Puis là, je sais que tu représentes pas tout le monde, donc mais de ce que tu entends, est-ce que ça fait une différence? Est-ce que ça...
Ben, s'il arrive pour de vrai, oui, ça va faire une différence, c'est évident. Puis je vais prendre une situation particulière qui est le sous-financement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. C'est un problème qu'on a depuis des années et des années. Donc les personnes qui travaillent dans ces maisons réclament depuis tellement longtemps d'avoir des moyens, des chambres, ne serait-ce que pour héberger ces femmes qui... Il n'y a pas assez de place pour le monde qui appelle. Hein. Donc ça va déjà être un immense soulagement. Après, c'est sûr que ça ne suffira pas. Parce que les maisons d'hébergement, on est déjà dans le trop tard.
C'est ça.
Donc l'idée, c'est que les femmes ne se rendent pas jusque-là.
Exact. En amont.
Mais bon, je ne pense pas jamais qu'on parviendra dans une société où on pourra les faire disparaître. Le but de la criminologie, si vous voulez savoir ce qu'on fait dans la vie... On essaie de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin que ça existe.
C'est ça. Waouh.
Voilà. Mais c'est vaste projet. En attendant, on est malheureusement bien assez nombreux.
Je vous souhaite que votre job disparaisse, la gang. Ce serait.
Après, c'est l'humanité, ça a quelque chose de.
Ah,
le crime, la maladie, on serait pas. Ça nous définit aussi.
C'est fou, hein. C'est fou aussi comment c'est ancré. Je sais pas, j'y pensais ce week-end, puis j'étais comme, mon Dieu, on est des animaux, là. Tu sais, c'est tellement animal.
Ah, bah oui, mais non.
Non?
Bah oui, c'est animal. Je crois pas.
Non?
Non.
Être agressif, est-ce que ça... C'est là où, aussi, dans l'investissement, en effet, ça part à la source, c'est-à-dire comment on s'éduque, comment on éduque aussi. Pas juste, évidemment, en couple, comment aimer, comme tu disais tantôt, mais aussi comment gérer ses émotions.
Moi, je pense qu'une société dans laquelle on s'assoit pour parler de ça, déjà en partant, c'est la preuve qu'on n'est pas des animaux.
Ouais.
Voilà. Qu'on n'arrive pas à tout enlever, je comprends, mais on fait déjà tous tellement d'efforts. Moi, je ne veux pas avoir un discours angéliste, là. On a de quoi travailler pendant 1000 ans encore.
Hein. Ouais.
Mais c'est... Voilà, on avance. Alors, je ne sais pas si on avance encore dans les moyens, mais...
On avance.
On va pas déprimer tout le monde, mais oui, on va avancer. Voilà, on la guérira pas, hein, la violence conjugale. C'est il va toujours en avoir. On espère juste que ce soit de moins en moins.
Mm-hmm.
Ça, c'est un. Deux, on espère avoir un peu plus de moyens pour la prendre en charge, la traiter, excusez le mot, la ramasser après. Il faut s'occuper des gens. Ça aussi, c'est terrible. Parce qu'une fois, la prévenir, c'est bien. Hein, ça occupe tout le monde. Et puis, ce serait ultimement ce qu'il faut faire. Mais quand les gens sont déjà victimisés, faut pas les laisser dans cet état-là. Je veux dire, après, une femme qui est violentée, qui est plus chez elle, qui est en hébergement, qui a les enfants, comment vous voulez que ça se transmette pas, ses stress et ses angoisses, à ses propres enfants, à son propre entourage? Donc, c'est la prévention, c'est malheureusement ou très heureusement, ça aussi, c'est aller s'occuper des gens à qui il est déjà arrivé quelque chose.
Mmh.
Pour pas que ça se reproduise, pour pas que ça génère après des ça les fout en l'air, ces vies-là. Donc, puis si on veut qu'à un moment donné arrêter le cycle, il va falloir qu'on commence à s'occuper des gens après aussi et pas seulement avant. Il faut faire les deux.
Et ça s'arrête, ce cycle-là? C'est possible d'arrêter
Oui, il y a des gens pour qui ça arrête. Il y a des gens pour qui ça arrête pas. Et il y a des fois où ça arrête, mais pas grâce aux gens. Je veux dire, on arrête aussi parce que il y a tout un tas de mécanismes d'intervention qui permettent de séparer les personnes. Il y a plusieurs moyens d'arrêter ça.
Comment? C'est quoi les mécanismes?
Ça part de la prison à l'extrême d'un côté à une des formes de séparation plus douces de l'autre côté, avec des formes de réparation par le dialogue ou par d'autres choses. Donc ça, ça dépend tellement des situations, de la gravité des cas, et ça dépend aussi de la loi, parce qu'il y a des, heureusement des lois qui nous permettent de, à un moment donné, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, et où est-ce qu'elle est la limite.
Est-ce que la loi est trop loin dans le cycle de la violence, tu crois? Ou ce serait...
Ah, quelle bonne question. Juridiquement, non, on ne peut pas la mettre beaucoup en amont.
C'est ça.
Je veux dire, ce serait une société dans laquelle, au premier texto contrôlant, on aurait des problèmes. Ce serait absolument atroce.
Ouais,
je veux
dire,
on ne peut pas se rendre là. On a le même problème à faire comprendre ça dans le cadre de MeToo. À partir de quand c'est une sollicitation amoureuse, à partir de quand ça devient une espèce de harcèlement, c'est la question la plus difficile et la plus intéressante aussi. Donc, je suis... Après, on est tous un peu différents dans la recherche. Moi, personnellement, je suis contre le fait que les lois englobent plus de comportements.
Pourquoi ?
Parce que je pense pas que ce n'est qu'une question... je m'exprime peut-être mal. Les comportements graves, etc., on n'enlève pas la loi. Là,
ouais,
ça, c'est évident.
Mais
il faudrait pas que le contrôle législatif rentre à ce point dans nos cellulaires et nos relations amoureuses parce qu'on a tellement peur que ça arrive. Ce serait d'un triste infini.
Je comprends.
Donc, à mon avis, c'est pas au droit de régler en amont. C'est vraiment à la société.
Donc, c'est à l'éducation.
C'est à l'éducation. C'est à la discussion. C'est au fait de faire tomber les frontières, de continuer à travailler sur ce qu'on appelle l'égalité homme-femme, qui pour beaucoup est compliqué à comprendre. Hein. C'est pas qu'une égalité de salaire, etc. Mais c'est dans les rôles sociaux aussi qu'on joue. C'est dans les valeurs qu'on propage. C'est dans le... Ça touche aussi les... La manière dont tu l'as très bien dit tout à l'heure, comment l'image de la virilité qu'on renvoie aux hommes, c'est dans tout ça, voilà. Mm-hmm. Puis ça, une étape à la fois, mais je pense qu'on a déjà commencé ce qu'on faisait pas il y a plusieurs années. Ouais.
C'est ça, là, on dirait. Puis en effet, je pense que je suis d'accord avec toi que faut rester optimiste, même si ça semble très dramatique ce qu'on voit. Est-ce que les mouvements comme MeToo, la vague de dénonciation qu'on a eue l'été dernier, et là, ce qui se passe présentement avec les féminicides, est-ce que justement ça amène pas cette conversation dans l'oreille du public qui fait en sorte que justement les histoires sortent plus? Est-ce que...
Ah oui, puis ça c'est génial.
Ça encourage génial. Plus les gens
bien
à parler.
Sûr. Mais tout à fait. Alors, je veux bien que ça monte un peu un stress social, que tout le monde se pose un peu des questions en ce moment, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je pense que c'est des vrais beaux mouvements. Alors, avec des conséquences qui sont pas toujours faciles, qui nous donnent, nous, du fil à retordre en recherche, qui occultent certaines problématiques aussi, ne serait-ce que la violence sur les hommes en ce moment, qui est complètement un peu cachée, ou en tout cas, on l'a mise un peu de côté pour mettre de l'avant celle faite aux femmes, et c'est un peu normal aussi. Mais voilà, donc c'est des mouvements compliqués, mais qui sont très beaux. Qui sont très beaux quand on va... Ça va être un peu, à mon avis, un peu chaotique jusqu'à ce qu'on trouve exactement quoi faire avec ces mouvements-là, surtout apprendre à les recevoir et les accueillir comme il faut. Mais c'est merveilleux ce qui s'est passé les dernières années.
C'est tellement complexe,
ah oui,
en effet,
complexe.
Parce que c'est que du cas par cas. T'sais, c'est vraiment dans l'intimité, à l'intérieur d'un couple... qui fait qu'en effet, on peut pas faire « ben la loi dit ça, puis là, ben c'est bon pour tout le monde ». Tu sais, c'est tellement plus nuancé que ça. C'est quoi les ressources? Si, mettons, il y a quelqu'un là, qui écoute ça en ce moment, puis qui réalise « ah, mon Dieu, je suis peut-être dans ce cycle-là, et je m'en rends compte », est-ce que c'est la première ressource, c'est une ligne d'appel?
Oui. Ça, je vais les lister toutes. Mais d'abord, je voudrais dire, on a un réseau d'intervention qui est merveilleux. Je pense que s'il y a vraiment quelque chose pour lequel moi je pense qu'on est vraiment entre guillemets un peu en avance au Québec. Je sais que c'est dur là pour nos organismes communautaires. Il y a beaucoup de sous-financement, etc. Mais on a des personnes tellement engagées. Ouais. Voilà. Je pense que c'est un réseau qui mérite vraiment d'être rendu visible. Il y a plusieurs ressources qu'il faut appeler immédiatement. Oui, le réseau d'appel. Il y a un réseau qui s'appelle en fait SOS. Violence conjugale. C'est pas plus compliqué que ça. Juste taper ça dans Google, ça pop tout de suite.
Ouais.
Voilà. Et après, elle s'occupe de tout, de vous référer, etc. On appelle ce réseau, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme,
qu'on soit la victime,
ou n'importe quoi.
Ah,
d'accord,
ouais.
Qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, ça n'a aucune importance. Et c'est important aussi d'appeler, même si on n'est pas sûr, même si on ne sait pas, même si on est juste un témoin. On ne reste pas avec des questions, pas dans un domaine pareil. On ouais. appelle, ils sont là pour ça. Vous n'êtes même pas obligé de donner votre identité. D'accord ? Vous appelez pour n'importe quoi, même par curiosité.
Ouais.
Mes collègues de SOS ne vont pas être contentes parce qu'elles vont recevoir plein d'appels, mais je l'espère de tout mon cœur.
Ben oui.
Mais on appelle aussi pour poser des questions. On n'appelle pas quand c'est trop tard, on appelle avant, quand on n'est pas sûr.
C'est ça.
Et même si c'est juste de la curiosité, même si ce n'est pas pour nous, ce n'est pas grave. Au pire, c'est un appel...
Ouais.
Voilà, ça ne coûte rien, ça ne dérange personne et c'est fait pour ça. Voilà, il y a aussi il y a tout un réseau. Voilà, il y a le réseau de ce qu'on appelle les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, qui fait un travail fantastique. CAVAC, CAVAC, pareil. Ouais. Vous tapez ça sur Google, vous appelez le premier numéro qui passe.
Et ces personnes aussi aident autant la victime que l'agresseur.
Non, elles n'aideront pas l'agresseur.
Non, c'est ça.
Non, mais elles vont référer.
Voilà,
ce qui est très important de comprendre, téléphoner.
Ouais.
Puis si vous n'êtes pas au bon endroit, on va vous donner où est-ce qu'il faut appeler. C'est pas plus compliqué que ça.
Voilà.
Il y a aucun geste, il y a aucune conséquence négative au fait de poser la question. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et c'est ça, sortir du silence. D'accord.
Si ça commence par ça. Ça commence par soi.
Poser les questions, tout simplement. Et pas si on est une victime ou si un agresseur. Si on est n'importe qui, on est une petite sœur, on est une collègue, on a un prof qui voit des trucs qui est pas sûr. Voilà. On appelle.
Ouais.
Et donc, juste pour ça, oui, ce serait bien que ces centres soient un peu plus financés, aidés, qu'on puisse avoir du personnel. Il y a aussi la même chose pour les victimes d'agressions sexuelles. On a tout le réseau de ce qu'on appelle les CALAX, les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Vous n'êtes pas sûr, n'importe quoi, c'était tu m'as brassé, mon doigt de pied, m'as-tu mis la main dans le dos, appelez.
Ouais.
On se débrouille après. On va vous référer, on va... Peu importe. Et ça, déjà, ça fonctionne très bien. Et ensuite, on vous réfère. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle tout le réseau un peu de j'ai envie de dire première ligne, mais
ouais.
c'est l'immédiat.
Ouais.
Après, il y a tout un réseau d'accueil.
Ouais.
D'accord ? Les fameux CAVAC vont vous accueillir, vont vous prendre en charge, vous donner beaucoup d'informations, vont beaucoup vous aider si vous partez dans le système de justice avec ça, etc. Ça s'en va à la police. Les autres organismes vous accueillent même si vous dénoncez pas.
Wow.
D'accord ? Ça, wow. Je veux que tout le monde comprenne bien
ouais.
ça. Vous pouvez être aidé, être soutenu, même si vous dénoncez pas, même si vous dites même pas votre nom.
Wow.
D'accord ? J'ai déjà testé, juste pour voir, avec mes étudiants. On a appelé un de ces organismes au hasard et on n'a pas dit le nom. C'était une vraie situation, hein. On n'a pas fait de...
Ouais.
Et y a moyen vraiment, allez juste, téléphoner. C'est des,
wow.
c'est des pros. Oui, waouh.
Mais oui, c'est...
Et puis ça existe depuis des années.
Wow.
Je suis quand même contente qu'en 2021, on commence à parler de tout ce
ben
bon
oui.
monde.
Parce que ouais. j'imagine qu'il y a une partie... À chaque fois qu'on lit ça aussi, des fois, il faut... tant qu'on est, on peut être empathique à une situation, mais je peux pas comprendre à 100% ce que ces personnes-là vivent, mais faut pas oublier que si ça se passe à l'intérieur d'un couple, quand on parle de violence conjugale, des fois c'est dur à comprendre, mais il y a de l'amour qui fait qu'il y a des gens qui veulent pas porter plainte, puis faut pas les juger pour ça, faut au contraire les accompagner, tu sais.
Tout à fait.
Puis les sortir de ce cycle-là malgré tout. Est-ce que J'ai reçu des journalistes qui ont fait des documentaires ou qui ont fait des recherches ou qui ont écrit des articles sur différentes situations de violence. Et on a souvent parlé du système juridique comme étant quand même assez rigide. J'ai reçu Émilie Perrault qui va sortir un documentaire qui s'appelle La parfaite victime, où ils ont proposé qu'il y ait un système juridique comme spécialement pour les violences faites à caractère sexuel. Mm-hmm. Et le système juridique était très, très, très fermé à ça. Est-ce que tu crois que ce serait important qu'il y en ait une? Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est que la voie juridique est tellement dure pour la victime que ça donne pas le goût d'y aller.
C'est ça aussi, c'est plein de nuances. J'aurais quand même des choses un peu différentes à dire là-dessus. Déjà, oui, le système judiciaire en tant que tel, il peut être bonifié. Cela étant, je fais partie des personnes qui trouvent qu'on y va un peu fort. Je dirais, on est toujours en train de critiquer nos polices, nos procureurs. Il y a quand même un paquet de monde formidable là-dedans.
Ouais, 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 absolument.
Alors, c'est sûr que quand il y en a un qui fait pas des belles affaires, ça passe partout à la télé et c'est très bien qu'on se remette en question. Et déjà, il y a beaucoup de policiers qui sont des policières qui savent quand même intervenir en agression sexuelle, aux violences faites aux femmes. Il y a des procureurs, des avocats, des juges qui sont des gens formidables, qui travaillent énormément en ce moment. On a des équipes au ministère de la Justice qui font un travail de reconstruction, de démêlage de fil qui vaut vraiment la peine d'être salué, plébiscité. Donc, le monde travaille quand même. Enfin, moi, j'aime pas trop dire que le système de justice, il est monstrueux, etc. Bon. Après, oui, il y a plein de défauts là-dedans qu'on peut arranger. Ça, c'est sûr. On y travaille. On a encore beaucoup de ce qu'on appelle des réflexes punitifs, de manière de voir l'intervention judiciaire qu'on pourrait peut-être un peu moderniser, assouplir, comprendre, mettre un peu plus en lien avec tout ce qui se passe dans la vraie vie des gens. Par exemple, il n'y a aucun moyen de trouver ça agréable pour une victime d'acte criminel de passer à travers un procès pénal. Il n'y a rien de pire que ça, en fait. Ouais. Donc, d'aller témoigner, c'est difficile. De comprendre qu'on ne sera qu'une preuve, c'est difficile, etc. Donc, l'idée de créer des tribunaux adaptés, elle n'est vraiment pas mauvaise.
Ben ouais.
Oui, voilà. Cela étant dit, c'est un gros chantier, c'est une grosse réflexion. C'est une réflexion aussi parce que faut quand même pas que ça débalance complètement les droits de la défense. On veut pas tomber dans l'extrême où le premier gars qui vous envoie un texto pour vous crouser finit avec une plainte ou une menace. On veut pas tomber dans cette société-là non plus.
Est-ce qu'on est vraiment à risque? Parce que souvent, dans ces mouvements-là, on va entendre des gens... à tort ou à raison, là, dire « Hey, tu sais, là, faut pas que ça déborde, faut pas qu'on tombe de l'autre côté. » Est-ce qu'on tombe de l'autre côté? Ça arrive-tu souvent des personnes qui vont porter plainte alors qu'elles auraient pas raison de le faire ou qui vont dénoncer? Puis, tu sais, ça arrive-tu assez souvent pour qu'on le mentionne ou c'est vraiment un mini pourcentage et on met beaucoup d'importance là-dessus qui vient peut-être faire de l'ombre à des personnes qui ont besoin d'être entendues?
Oui, c'est quand même pas le plus gros pourcentage. Et effectivement, oui, ça vient faire de l'ombre à des personnes qui auraient vraiment besoin d'être entendues. Mais ça reste le droit, ça reste possible. Et c'est la balance de la justice, c'est-à-dire cette véritable image de balance entre les droits de l'un, les droits de l'autre. Mais je pense que c'est pas tant ça qu'elle veut dire, cette balance-là, mais entre la manière dont une société peut surveiller et punir et en même temps, d'un autre côté, préserver nos libertés. C'est cette balance-là qui est difficile à gérer.
Ouais.
Et ça, ben, on a les moyens qu'on a pour ce faire. Donc, vous voulez savoir, tu veux savoir c'est quoi la crimino, le droit, c'est ça qu'on fait en recherche à longueur de journée, se poser perpétuellement la question de cette balance-là. Quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que c'est pas assez, et c'est un perpétuel jeu de.
Ouais. Parce qu'en effet, c'est ça, des fois, on va souvent dire qu'on. En tout cas, j'ai souvent entendu, on aime mieux avoir quelqu'un d'innocent d'avoir quelqu'un qui a fait quelque chose de mal à l'extérieur qu'avoir un innocent à l'intérieur des murs d'une prison.
Ouais, je sais pas si c'est ça. C'est aussi des manières de parler qu'on entend beaucoup plus de manière générale. C'est des dimensions qui. Je vais le dire autrement, mais la crimino, le droit, c'est pas des domaines où c'est facile d'être pour ou contre. Genre, ouais, on peut pas arriver avec un discours qui commence par ça fait dur ou c'est un scandale. Genre déjà c'est mal parti quand on parle comme ça.
Ouais.
Donc faut essayer de travailler un peu plus en analyse. C'est-à-dire qu'arrêter de se demander si on est pour ou contre. Moi, j'essaie de pas me lever le matin en me disant je suis-tu pour ou contre. J'essaie de regarder ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on peut faire.
Ouais.
Puis essayer de c'est un peu ça la recherche. C'est d'essayer de voir le mur en avant, de mettre avant les autres pour être capable de prévenir tout le monde en disant wow, si on continue trop ce bord-là, on risque de. C'est vraiment ça qu'on fait,
qu'on
essaye en tout cas.
Ouais.
Je prétendrai même pas que j'y arrive.
Mais ça qui est difficile aussi dans ce milieu-là, c'est que j'ai l'impression que les fois où vous y arrivez, vous le savez jamais autant que les fois où ça n'a pas fonctionné. C'est ça qui est difficile. J'ai l'impression.
Bon. On y arrive quand même quelques fois.
C'est ça, vous y arrivez, mais c'est pas aussi clair que lorsque il y a un décès.
C'est qu'à
l'inverse, comme les vies que vous sauvez.
Ben nous, on sauve pas de vie, mon Dieu. C'est les gens sur le terrain qui les sauvent, les vies. Ouais. Nous, on essaye de faire un portrait de ce qui se passe. C'est pas, très humblement, pas mal tout ce qu'on est capable de faire, je pense. Essayer juste... l'immense majorité d'entre nous, les chercheurs, on essaie juste, en tout cas en sciences humaines, sociales, si déjà on arrive à refléter... le moins mal possible ce qui se passe, on a déjà fait une grosse partie du boulot. Après, on n'est pas des décideurs.
Ouais.
On peut montrer les risques, on peut montrer les espoirs, on peut montrer des idées, on peut faire tout ça. Et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas ceux qui prenons les décisions ultimement, parce qu'on ne peut pas... ça prend tout ce monde-là. Après, ceux qui ont le courage de faire... les fameuses avancées, les changements légaux, ça c'est plus au niveau des décideurs que ça se passe, quels qu'ils soient. Puis alors après, et le plus, je vous dirais, ceux qui sont le plus dedans, c'est ceux qui mettent ça en pratique, c'est les intervenants, le personnel de justice, le personnel, les professionnels du milieu communautaire. Voilà. Et puis il y a une grosse partie qui est le système de justice, mais il y a une grosse partie autour du système de justice.
C'est ça l'affaire, mettons, ce qui peut pas passer par le système de justice, mais qui demeure quelque chose qui n'était pas correct. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ça, il y a plein de choses. Et on n'est pas encore complètement égal partout dans la pensée à ce niveau-là. Donc, il y a d'abord le fameux système communautaire. Vous appelez pour demander de l'aide. On peut se faire aider même si on ne dénonce pas.
Ouais.
Ça, c'est très important.
Ouais.
On va vous accompagner dans la dénonciation par après, mais on commence toujours par demander de l'aide. Il y a aussi beaucoup de possibilités de ce qu'on va appeler la justice réparatrice. Donc, et ça, je ne parle pas, on n'est pas en violence conjugale ou en agression sexuelle dans les cas graves, là. Mais entre guillemets, le dialogue, et je ne parle pas de se mettre dans la même pièce pour jaser, là, mais le dialogue social, le travail sur des possibilités de résoudre des conflits dans les écoles, dans les institutions, etc., ça, c'est extrêmement prometteur. Moi, je travaille beaucoup là-dessus.
Donc, expliquer...
je trouve ça très intéressant.
À des jeunes, des moins jeunes...
Mais tout, de prendre en charge... je vais le dire de manière un peu philosophique, là, mais la dette d'honneur dans un crime, c'est-à-dire le drame humain qui n'est pas seulement juste l'infraction, tout ce qui est la souffrance, l'humiliation, l'emprise, sans qu'on tombe dans la psycho, là,
ouais.
D'accord Il y a quelque chose de très humain là-dedans. Voilà. Et on a des très belles opportunités. On a une province qui est très en avance là-dessus, d'ailleurs, pour proposer de plus en plus des mécanismes de justice réparatrice ou des programmes qui vont permettre de travailler un dialogue dans le but d'une réparation.
Quand même entre les deux parties.
Oui. Tout à fait. Et entre d'autres aussi. On peut mettre n'importe qui là-dedans, des parents, de la famille, etc. Mais oui, essentiellement entre les deux parties.
Donc, par exemple, mettons qu'on prend un exemple juste pour que je comprenne bien ce qui se passe. Il y a un couple qui n'est pas tombé dans la violence physique, mais où il y a eu des dommages, de la honte, du manque de respect, où il y a eu une certaine violence, mais pas au niveau extrême. Et là, vous entamez... La femme, par exemple, va chercher de l'aide. Elle se sort de ça. Et là, quand tu parles du dialogue, c'est... Ils vont s'écrire?
Je voudrais pas trop rentrer là-dedans en violence conjugale, pour la simple et bonne raison que, pour l'instant, on n'est pas fixés et pas tous d'accord sur ce qu'il faut faire. Donc, la violence conjugale, c'est pas mal... Pas encore le meilleur exemple pour embarquer dans un débat justice réparatrice. Okay. Très honnêtement, on est en train d'avoir ce débat. J'aimerais beaucoup, par respect pour mes collègues et tout notre réseau, pas en dire davantage trop sur cette question. Je peux vous garantir qu'il y a les meilleurs experts sur le coup, que les rapports des comités d'experts récents et tout ça ont largement étudié cette question, que voilà, on est en train de la développer. Ce que je peux vous promettre, c'est que si à un moment donné ça se développe, ça va être bien fait.
Ok, super.
Voilà. Mais on ne veut pas aller dans ces questions-là de manière non harmonieuse. On va y aller quand on sera à peu près tous d'accord. Toutes d'accord. Les professionnels, les décideurs, les chercheurs. Donc, c'est une question, moi, sur laquelle je travaille d'abord beaucoup, mais je suis assez heureuse de voir ce qui se passe. C'est que tout le monde se parle. Donc, ça aussi, pour moi, je pense qu'on a... Ça a fait de ça de bien, la pandémie, c'est qu'on a eu le temps de jaser, ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Voilà. La justice réparatrice, j'y reviens.
Ouais.
On peut l'offrir actuellement, par contre, de manière très avancée pour toutes sortes d'autres crimes. Voilà. On a des programmes dans les milieux scolaires, on a des programmes dans les quartiers, les voisinages. On a aussi des programmes assez très, très avancés en justice pour les adolescents. Quand un jeune commet un crime, un vol à l'épicerie, on ne l'envoie pas dans des grosses peines sévères. On va aller travailler davantage dans ce genre de mécanisme, des mesures extrajudiciaires, sanctions extrajudiciaires, justice réparatrice ou autre. Okay. Il y a aussi tout un système d'intervention institutionnel qui marche très bien. On a aussi des programmes de justice réparatrice en prison, dans les pénitenciers fédéraux, pour des crimes extrêmement graves. On est capable d'en faire en homicide, oui, en violence conjugale, mais quand l'auteur est incarcéré déjà, dans des crimes extrêmement dramatiques. Et oui, là, on va... Alors, ce sont tous des programmes un petit peu différents.
Où vous allez, selon le cas, y offrir une espèce de parcours à suivre, c'est...
Non, on va offrir... C'est rigolo à expliquer comme ça. On va offrir... Pas rigolo, c'est pas le mot, là. Ce que ces programmes offrent, c'est du dialogue. Et on parle pas d'une conversation dans la même pièce, je précise. C'est des réponses aux questions que la victime se pose. C'est des possibilités pour l'agresseur d'aller au fond des choses. C'est une possibilité de mettre en valeur ce qui est complètement occulté dans le système de justice pénale, c'est-à-dire le problème presque relationnel qui s'est passé. Est-ce que ce que j'appelais tout à l'heure la dette d'honneur. Il y en a un des deux qui, en agressant l'autre, l'a aussi humilié, l'a fait se taire. Et souvent, on est dans des milieux très, très intimes, d'accord ? On pense souvent le crime comme quelqu'un qui est caché derrière un buisson et qui nous saute dessus. Et le premier, l'endroit le plus dangereux, c'est la famille. Mmh. Et donc, vous avez des choses qui se passent là-dedans, qui restent sans réponse, ou je ne sais pas, on est avec quelqu'un pendant des années, puis d'un seul coup, on ne comprend pas pourquoi. Donc, voilà. Donc, c'est tout ça qui se fait. C'est un travail d'orfèvre, là. C'est pas...
Là, j'imagine qu'il y a des psychologues impliqués à ce niveau-là.
Alors, les personnes qui réalisent ces mesures ne sont pas des psychologues, mais les psychologues sont souvent invités et participent et sont là, oui.
Accompagnent les personnes.
Pas toujours, ça dépend. En fait, c'est la personne qui décide.
Wow. Mmh. C'est intense quand même.
Oui, c'est intense.
Mais ça doit faire un... J'imagine que ça, c'est... Puis on l'a vu dans le mouvement MeToo, on l'a vu aussi dans la vague de dénonciation l'été dernier, à quel point... C'est une partie importante de la réparation de la victime, la reprise de pouvoir, en gros guillemets, ou du moins juste le pardon envers soi, l'honneur.
Mais la victime, déjà, peu importe qui elle est, la première chose dont elle a besoin, c'est que l'auteur reconnaisse les faits. Et là où c'est compliqué dans un palais de justice, c'est que la reconnaissance des faits, ça vient souvent avec une peine de prison, avec une humiliation publique, etc. Donc évidemment, tout le système pénal a construit un peu des rôles où il y en a un qui va tout faire pour dire qu'il est innocent. Et donc voilà, c'est un peu... Et ça, c'est ce qu'il y a de très intéressant en justice réparatrice, c'est qu'on n'a pas cette pression-là du public, de la peine, etc.
Ça donc, se passe dans le privé.
Ça se passe dans le discret, pas dans le privé, c'est parce qu'on reste quand même pour beaucoup de ces programmes à l'intérieur même des institutions judiciaires. Hein. L'immense majorité, c'est très important de comprendre ça. C'est pas de la justice sous la table ou à côté, pas du tout. Ce sont des programmes très sérieux, très officiels, qui sont vraiment dans les structures même du droit. C'est juste qu'elles sont pas dans un procès pénal, elles sont souvent en amont du procès, ou à côté, ou après.
Okay.
Donc, on est dans le cercle immédiat. On est vraiment dans la véritable justice. Là, c'est pas des...
C'est ça. Puis l'idée ça apporte bien son nom, justice réparatrice, c'est de réparer.
C'est de réparer et de permettre à l'agresseur de prendre sa responsabilité. Alors, je parle pas de responsabilisation au sens psychorigide. Là, on parle juste juste dire oui, c'est moi, puis écoute, c'est juste moi qui l'a fait, à une personne qui a terriblement besoin de l'entendre. Mmh. Et qui souvent entreprend des démarches de dénonciation juste pour avoir ça, cette espèce de reconnaissance qui est pas seulement la reconnaissance que c'est l'autre qui l'a fait, mais aussi la reconnaissance que c'est pas ma faute à moi.
Ouais.
C'est pas la taille de ma jupe qui a déclenché ça, ou la manière dont je parlais. Il y a aussi un petit bout là-dedans. Et ça, c'est hyper nécessaire au rétablissement d'une femme, notamment.
Ouais, absolument. C'est tellement primordial. Puis le pire, c'est que j'imagine que ça... Évidemment que ça aide la victime à un niveau très, très grand, mais j'imagine que ça aide aussi l'agresseur.
Mais bien sûr, bien sûr. Mm.
Dans ce genre de cas-là aussi, moi, ce que je trouve des fois complexe, surtout quand on n'est pas... Quand on lit ça dans le journal, tu sais, c'est très... C'est tout le temps stressant de parler de ces sujets-là parce que c'est comme la priorité, c'est la victime et on veut que la victime aille mieux. On veut que la victime... reprenne confiance en elle, qu'elle ait de l'honneur, qu'elle soit forte, qu'elle soit réparée. Et à chaque fois qu'on parle de l'agresseur ou de la personne qui a commis le crime, c'est tout le temps... En tout cas, moi, je sais que je marche tout le temps un peu sur des œufs parce que comme je veux pas... Pour moi, c'est pas la première étape, malheureusement, là, tu sais, de la réparation de cette situation-là. C'est vraiment la victime. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? Parce que si on pense au projet social, ces gens-là continuent de faire partie de la société. Évidemment que là, il est trop tard pour... Tu sais, quand on peut revenir à parler d'éducation pour les jeunes, ce qui est comme la source du problème. Mais une fois que le mal est fait, on parle souvent de réhabilitation. Moi, le premier, je vais dire, je crois à la réhabilitation, mais des fois, j'ai un malaise avec la réhabilitation. Je pense que lorsque la personne passe à travers le système de justice, qu'elle va en prison, qu'elle fait du temps, on dirait que c'est plus clair. C'est comme elle a fait son temps. elle a été accompagnée, elle a, s'ils l'ont libérée, souvent on va dire qu'ils sont libérés trop rapidement. Tout ça aussi, je connais pas ça. C'est ce que j'entends. Est-ce qu'on croit à la réhabilitation? J'ai lu un article dans le journal la semaine dernière où il y a un homme de 70 ans passé qui a raconté son histoire, où il y a des décennies, il a commis l'acte de tuer sa partenaire, puis il a été en prison. Il semble être guéri, du moins de ce que j'ai lu dans l'article dans la presse. Puis il a raconté son histoire pour montrer aux gens aussi que ça se peut, ça. Comment ça fonctionne? C'est complexe? C'est touché?
Ah oui, c'est complexe. On aime bien dire ça chez nous. Je grossis aussi encore beaucoup, mais sortir de prison, c'est pas dur. Ce qui est dur, c'est de re-rentrer dans la société.
Ouais.
La réinsertion, la réhabilitation, ça prend deux choses. Ça prend un gars qui veut reprendre une vie. Ça prend une société qui le laisse faire et
c'est
qui
ça.
L'accueille. Et souvent, on a un des deux bouts. Et c'est difficile d'avoir les deux en même temps. C'est pas impossible. Hein.
Ouais.
Heureusement, on y arrive. Donc, quand quelqu'un commet un crime, même le pire de tous, c'est jamais qu'une heure ou deux dans une vie, hein, ou quelques mois. Ce que tu appelles croire en la réhabilitation, c'est lui donner les moyens peut-être d'essayer de se remettre dans la vie sociale et de recommencer à réintégrer les valeurs. Ça, c'est possible que si la personne a envie de le faire, se donne les moyens de le faire. Il faut aussi lui donner envie et il faut qu'on soit d'accord avec le fait de lui donner envie. Que le problème de la prison, c'est que si tu veux réhabiliter quelqu'un, c'est la moins bonne idée. Si je te prends toi, que je t'envoie en prison 2 mois, tu vas pas ressortir dans un bon état nécessairement, là, même si t'as pas fait grand-chose.
Ouais.
Par contre, si je t'envoie pas en prison du tout, ben, ça se peut qu'au niveau de la société, ce soit difficile à avaler quand même. D'accord?
Ouais, exact.
C'est compliqué pour quelqu'un d'accepter le fait qu'il n'y ait pas de conséquences et c'est extrêmement compliqué. En plus, si on prend en considération tout ce que la victime, elle paye, parce qu'elle, elle en a des conséquences et elle ne part pas ses conséquences.
C'est ça.
Donc on est encore une fois dans cet équilibre qui est vraiment très compliqué entre si on donne une peine, ben, on ne fait pas nécessairement la bonne affaire pour que la personne s'en remette et redevienne un citoyen hyper constructif. Ce qu'il faudrait, c'est réparer, pas punir. Mais si on ne punit pas du tout, on obtient une levée de bouclier social. Voilà.
Ouais.
Cet équilibre-là, ça, c'est très complexe. Et alors, j'ai des collègues à moi qui sont spécialistes de cette question, la réinsertion,
ouais.
La notion de punition ou de non-punition. Alors, ça, c'est un monde qui est fascinant.
Mais
c'est pas le mien, c'est pas celui que je maîtrise le mieux. Mais j'ai une grande admiration pour mes collègues, oui, à cet égard. C'est une question qui est fantastique. C'est de la crimino pure.
Oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est ce qui est le plus difficile, on dirait. Et c'est ça qui est particulier parce que je sais pas c'est quoi aller en prison, mais je peux juste m'imaginer que c'est vraiment, vraiment loin d'être génial.
Et puis, c'est toutes les mesures autour. Je veux dire, après, on parle de la prison, mais on a toutes les mesures à l'extérieur, en communauté. Ça va du travail au couvre-feu, en passant par la probation, avec toutes les mesures entre les deux, les semi-libertés, etc. Donc, c'est un monde qui est très, très large.
Ouais.
Mais la réhabilitation.
Pour toi, c'est quoi du meilleur de ta connaissance, là, tu sais, où... Ce serait quoi la meilleure manière de...
Mais mon cher, si j'avais une réponse à cette question, je serais déjà milliardaire. Ouais.
Mais c'est tellement... Parce que moi, c'est ce que je trouve le plus difficile des fois dans la vague de dénonciation, c'est quand on sait que quelqu'un a fait quelque chose, mais que justement qu'il n'y a pas de punition et que aussi... Fait que comment on fait pour être en paix avec ça? Comment on fait pour... être sincère quand je dis que je crois à la réhabilitation, si dans le fond je suis un peu en colère ou puis là je dis moi là, mais dans le sens de la société, tu sais, comment on gère ça? Quelqu'un qui fait pas de temps, c'est juste une espèce de hyper certaine certains privilèges qu'il y avait?
La réponse à ça, je dirais la moins pire, c'est qu'il faut décomposer tous les petits problèmes. Fait qu'il faut essayer de comprendre tout ce qui se passe. Et c'est là où la sociologie est d'un immense renfort à la criminologie. Faut essayer un peu de comprendre, j'adore ce mot, les attentes des gens. Ouais. Et pas leurs besoins.
Ouais.
Les besoins, c'est cristallisé, d'accord?
Ouais.
T'as besoin d'un verre d'eau, ça dure 2 minutes. Mais tes attentes. Donc, il y a les attentes de l'infracteur, de l'agresseur, les attentes de la victime, de leurs proches, et les attentes de la société. Et les trois n'ont rien à voir, les unes avec les autres. Je prends juste la victime. Quand une victime dénonce, c'est généralement pas pour la peine. Ce qu'elle veut, c'est que ça arrête. C'est ça qu'elle veut, la plupart du temps.
Okay.
En tout cas, immédiatement.
Ouais.
Comment est-ce qu'on doit arrêter ? Déjà, c'est une première question, et on peut s'amuser longtemps avec celle-là. Donc, est-ce qu'on arrête, on met fin à un problème en le rendant visible, en le rendant public, en le rendant... Les femmes qui ont dénoncé pendant MeToo et qui se sont retrouvées 10 fois plus victimisées sur les réseaux sociaux, c'est assez intense. Je veux dire, d'un côté, on dit aux femmes, allez-y dénoncer, puis dès qu'elles dénoncent, on se moque, on les roule dans la boue, etc. On les accuse de vouloir humilier l'infracteur. Enfin, ça n'arrête pas. Donc, déjà, juste avec ça, je pense qu'on peut, travailler très, très longtemps. L'infracteur, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec ? Est-ce qu'on veut le récupérer ? Est-ce qu'on ne veut pas le récupérer ? On veut lui donner une chance, mais oui, mais non. Voilà. Donc, tout ça et la société. Enfin, jusqu'à où elle est prête, quelque part, à supporter la surveillance ou l'omniprésence de beaucoup d'injonctions dans le but de pouvoir se protéger. Parce que ça aussi, c'est une question terrible. Si vous voulez qu'il ne se passe plus rien, on met juste des caméras partout, on enregistre tout le monde, on surveille tout le monde et on tombe dans ce que tout le monde connaît, ce qu'on appelle le contrôle. Et personne ne veut aller là non plus.
Non.
Donc voilà. Alors, ça n'est juste qu'une histoire d'équilibre. Voilà. Et en criminologie, je pense que ce qui est important, c'est qu'un, il y ait plein de points de vue différents. Dès qu'il y en a un qui commence à avoir trop raison, on commence à faire des bêtises. Je pense que la magie de cette discipline, c'est qu'on essaie de concilier toujours des points de vue un peu opposés, des idées différentes, et on travaille à l'équilibre. On essaie de garder un espèce de plateau stable et d'essayer de faire avancer les choses toutes et tous du mieux qu'on peut.
Mais là-dedans, mettons, dans ce désir d'équilibre-là entre les attentes de la victime, de l'agresseur et de la société... La priorité, est-ce que c'est les attentes de la victime?
Je te renvoie à la question. La priorité pour qui? Pour toi? Pour moi?
Peut-être pour la société, je ne sais pas. Tu sais, c'est quoi le souhait derrière ça? C'est que cette personne-là... c'est que les deux personnes concernées soient des humains fonctionnels pour que la société le soit aussi, c'est-tu ça?
Oh ben là, je saurais pas te répondre. D'abord, je pense que le souhait social, entre guillemets, il change tout le temps. Il évolue. On veut juste tous être heureux et en sécurité.
C'est
ça. Donc, qu'est-ce qui est le plus efficace, qui coûte le moins cher et qui a le plus de chances de marcher?
C'est ça. C'est tellement complexe.
Mais oui,
comme...
c'est compliqué, mais c'est passionnant. C'est passionnant.
Absolument.
Et c'est passionnant, puis surtout, je pense que c'est nécessaire et qu'il y a vraiment des gens... Voilà, moi, je suis juste contente parce qu'on a des personnes dans des souffrances terribles, dans ce qu'on appelle... Enfin, ce que moi, j'aime appeler les violences... Enfin, ce que mon centre de recherche appelle les violences intimes. Quotidienne, familiale, structurelle. Voilà. Pendant des années, le crime, c'était les crimes extérieurs, les choses hyper impressionnantes, etc. Mais les dangers les plus nombreux, ils sont dans l'intime, ils sont dans la famille, ils sont dans le réseau social, ils sont dans le milieu de travail, ils sont dans le voilà, il y a un immense terrain criminel dans le vivre ensemble.
Ouais.
Voilà. Et donc, je pense que ces dernières années, on vient juste de catcher ça comme du monde. Et ça, déjà, on a fait un grand pas là-dessus. Donc,
après ça, le pas suivant est complexe à prendre.
Mais c'est... déjà moins complexe maintenant qu'on a monté la première marche et qu'on voit l'escalier. C'est déjà mieux.
Ouais. Absolument. Mais justement, quand c'est une parole contre une autre, dans un contexte intime, c'est tellement complexe.
Ben oui. Mais c'est pour ça que tous les mécanismes de justice qui ne sont pas ceux auxquels on pense immédiatement, ils sont très intéressants à développer aussi, parce qu'on va peut-être pouvoir trouver plein d'autres choses. Y a des conjoints qui ont besoin de soins, de prise en charge, et pas nécessairement de punition ou d'injonction.
Ouais, c'est ça.
Y en a d'autres qui ont besoin de punition ou d'injonction. Il y a des victimes qui ont un besoin d'être énormément protégées, ramassées, soignées. D'autres beaucoup moins, qui ont besoin davantage de reprendre elles aussi une forme de pouvoir ou de réussir à rééquilibrer la balance dans voilà, et tout ça c'est juste de pas mettre tout le monde dans la même situation.
Ouais.
Moi j'ai beaucoup de mal avec les discours oui non marche, ça marche pas, les gentils les méchants là.
Ouais. Même chose.
Oui.
Mais moi, c'est ce que j'aime, mettons, de la conversation qu'on est en train d'avoir, c'est que ben on prend le temps aussi de s'éloigner de ça, c'est bien, ça, c'est mal.
Ben
ça,
oui.
Justement, c'est rempli de nuances. Puis, ultimement, le souhait, c'est que tout le monde puisse aimer, être aimé, puis avoir une vie harmonieuse. Mais évidemment, c'est plus complexe que ça. Mettons qu'on parle d'éducation.
Mm-hmm.
Ce qui serait, mettons, la prévention ultime, là, tu sais, c'est de... est-ce que ce serait quoi... on commencerait très jeune, on explique c'est quoi l'amour, comment aimer, la gestion de la santé mentale, de parler de ses émotions, c'est...
Ah ben, je suppose que oui. Après, je suis pas une spécialiste de la prévention, j'avoue, donc je vais très, très modestement sur ce terrain-là. Je suis vraiment pas la meilleure, mais oui, c'est quelque chose comme ça. Hein. C'est commencer par le. Je pense que là, en tout cas, si l'objet de la conversation d'aujourd'hui, c'est le rapport entre les hommes et les femmes, ça, c'est quelque chose qui commence très, très tôt. Par l'éducation, bien sûr, mais aussi par ce qu'on montre aux enfants, parce qu'on peut bien leur dire. Vous savez, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Là. Il faudrait qu'on commence... voilà, ça va quand même prendre encore une ou deux générations avant qu'on progresse vraiment.
Ouais.
Encore que je suis assez surprise. Ça va quand même vite, on le voit, hein, chez les jeunes enfants. Les discours sont un peu différents, beaucoup plus inclusifs. Beaucoup
ouais, hein?
Plus... Ouais!
Ils sont extraordinaires.
J'aime ça, moi.
Ils sont vraiment extraordinaires.
Ouais, ouais. Donc voilà, après il y a encore les humains, ça va rester des humains, on va se taper dessus jusqu'à la fin des temps, on va trouver, vous enlevez un prétexte, on en trouve un autre, voilà, vous enlevez la guerre, il y a la pandémie.
C'est ça. Mais à travers tout ça aussi, il y a beaucoup justement, j'ai l'impression de la communication, tu sais, de se parler... De parler de ça.
Et pour ça, 2021, c'est vraiment super.
Ouais.
Parce qu'on a des outils qu'on n'avait pas avant. De communication, de... Alors, c'est des, ce qu'on appelle des boîtes de Pandore. Hein. Je ne sais pas, moi, une chaîne YouTube ou un podcast, ça peut avoir des effets dévastateurs, ça peut être super constructif. Donc, ça, j'ai envie de te dire, c'est dans ta cour.
Ouais. Mais c'est parce que j'essaie de prendre le... la responsabilité qui me revient, puis, mais en même temps, je pense que je te renvoie le... tu sais, je pense que le... Je te l'ai déjà dit, mais je te répète, le merci te revient à toi, et la félicitation n'est pas à moi, tu sais, dans le sens où je t'ai invité, mais après ça, c'est toi qui prends de ton temps pour venir éduquer les auditeurs, les auditrices, puis partager ton savoir, puis de partager le savoir de tes collègues. Et ça en toute humilité puis en toute ouverture. Donc, je pense que les félicitations te reviennent à toi. Puis, ce que je trouverais souhaitable, en fait, c'est que les médias fassent plus de place pour des professionnels. C'est pas à moi de parler de violence conjugale, je connais pas ça, tu sais. C'est aux professionnels, c'est à tes collègues et toi, tu sais. Il faut que vous ayez cette place-là. Il y a quelques années, mon père, il m'avait dit, comme les artistes, vous prenez trop de place dans les médias. Puis, je comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'ai dit, c'est notre job, c'est notre lieu de travail, tu sais. Puis avec le temps, j'ai fini par comprendre, comme, oh mon Dieu, mais les médias, c'est tellement large. Oui, il y a l'art, puis il y a le divertissement, mais il y a le journalisme, il y a l'information. Et cette part-là, aussi, c'est tellement important qu'on entende des professionnels et que comme auditeur, comme auditrice, des fois, c'est plus exigeant pour nous d'écouter un professionnel nous parler de quelque chose qu'un humoriste qui parle comme nous autres, tu sais. Et c'est là où je pense qu'il faut aiguiser notre oreille à vous entendre parler de vos connaissances parce que vous avez vous offrez toute votre vie à ça, tu sais, qui fait en sorte que vous avez tellement plus de connaissances que nous. Et il faut se partager ça, tu sais, pour que ça s'améliore, tu sais. Fait que pour moi, les félicitations te reviennent à toi.
Non, mais c'est très gentil, mais je fais malheureusement partie des gens qui font que regarder. Je pense que les félicitations vont surtout à ceux qui sont sur le terrain et qui ont les deux mains dedans. Là, je te dirais, dans mon domaine, la victimologie, moi, je la regarde quand même beaucoup un peu de loin. Donc, les félicitations, si tu me permets, je vais les renvoyer au réseau qui s'occupe des vraies personnes, qui fait un travail formidable et surtout des années, et depuis des années. Mais c'est vrai que... voilà, j'ai un beau centre de recherche que j'aime vraiment beaucoup, le RAIV, ouais. R-A-I-V. On fait ce qu'on peut pour aider. Mais sur la question des médias, encore une fois, je pense que nous aussi, on a notre bout à faire. Je pense que depuis, pendant trop longtemps, le monde de la recherche ou le monde professionnel et les médias ont été des domaines un peu opposés. Nous, les profs, on n'aime pas beaucoup aller parler à la télé, sur YouTube, à la radio, parce qu'on déforme nos propos, etc. Ouais, puis c'est vrai, des fois, on dit des bêtises. Je ne sais même pas ce que j'ai raconté aujourd'hui. Là. Mais je pense que nous aussi, on a notre bout à faire. Essayer davantage de mieux comprendre tout l'intérêt de votre travail. Parce que si tout ce qu'on dit, c'est uniquement dans des articles scientifiques ou pour un public très précis... Ben, c'est nul. Je pense que ça aussi, c'est moi qui te remercie, en fait, d'inviter des gens comme nous. Et parce que, quelque part, on dit souvent, les profs, c'est quand on n'a rien réussi à faire d'autre de nos vies, ce qui n'est pas...
Je suis pas d'accord.
Mais voilà, c'est super. Et puis, j'espère surtout que ça va servir. Et que ça serve à être entendu ou pas, peu importe, mais qu'on se décloisonne beaucoup, ouais. Qu'il y ait plus de professionnels qui aillent dans les médias, plus de médias qui s'intéressent à ce monde-là, et puis ouais. À force d'en parler, on va y arriver.
J'espère vraiment. On parle aussi de comment la société, le rapport homme-femme, comment vous observez ça, tu sais, est-ce que ça s'améliore, parce que ça fait longtemps, là, moi, depuis que je suis né, là, que j'entends ça, là, tu sais, que moi, j'ai grandi avec des filles. Moi, j'ai deux sœurs. Ma grand-mère habitait chez nous quand j'étais jeune. Ma mère, mon père sont encore ensemble depuis toujours. Fait que moi, j'ai grandi dans un milieu où c'était comme « Attends, les femmes sont vraiment fortes chez moi. » Tu sais, on dirait que j'ai appris tard que c'était... que c'était pas la réalité. En fait, que les femmes étaient martyrisées. On dirait que c'était tellement pas la réalité chez moi que... Ça m'a pris du temps à observer ça, tu sais, mais est-ce que ça s'améliore? Est-ce que justement dans les médias, est-ce que c'est mieux? Est-ce que dans les lois, est-ce que des lois aussi qui viennent renforcer cette espèce le patriarcat, là, tu sais, le rapport de force que l'homme peut avoir sur la femme?
Est-ce que ça s'améliore? Je te dirais, je suis pas certaine. Après, ça a beaucoup, ça s'est beaucoup complexifié parce que y a le rapport homme-femme, il y a aussi le fait que désormais les frontières entre les hommes et les femmes, elles ont aussi bougé. Il y a plein d'autres moyens de s'identifier dans un genre que strictement comme un homme ou comme une femme. Donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on règle une question, il y en a une autre qui arrive à se poser derrière. Mm-hmm. Ça, c'est un peu à la fois triste et rassurant pour un chercheur parce qu'on se dit, ouais, cool, on avance, mais en même temps, on se dit, on verra jamais le bout. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on découvre une autre route, puis il faut la défricher. Mais si on parle vraiment du rapport homme-femme et du patriarcat, on n'est pas encore sorti du bois, oui. Quand même, il y a encore... On avance secteur par secteur. Tu vois, il y a des choses déjà qui ont changé dans la manière de parler, dans la manière de montrer, dans la manière de je sais pas, juste la publicité, tout ça, ça bouge quand même beaucoup. Donc voilà. Après, il y a des domaines, c'est pas encore au point.
Ouais, non. C'est clair.
Donc, ne serait-ce que l'égalité de salaire, même en 2021, c'est hallucinant quand on regarde le nombre de diplômes que ça prend pour une femme pour toucher le même salaire qu'un homme ou des choses comme ça. C'est encore, voilà, mais ça. Comment on dit, s'il faut être optimiste, un jour à la fois, on est déjà moins pire que ce qu'on a été.
Ouais. Dans le cas de... Lorsqu'il y a de la violence conjugale entre un homme et une femme, est-ce que la culpabilité, mettons, est-ce que c'est un bon moteur de guérison pour l'agresseur? Est-ce que... J'imagine que c'est nécessaire.
La culpabilité, je ne sais pas si c'est le bon mot. La responsabilité, c'est oui. Ça. Et encore une fois, pas dans un sens psycho-managérial, mais le fait de réaliser, voilà, ce qui se passe, d'en prendre conscience, de le verbaliser. C'est déjà énorme. Et là, c'est exactement la même chose pour la victime à l'envers, c'est-à-dire qu'elle prenne conscience qu'elle est une victime, qu'elle prenne conscience qu'elle n'est pas responsable, malgré tout ce qu'elle peut avoir fait. C'est souvent ça que les victimes nous disent. Oui, mais j'ai commencé, j'ai fait ça ou j'ai fait ça. Et oui, tu l'as fait, mais ça, c'était pas criminel, ma belle.
Non, c'est ça.
T'as le droit de faire ça. Ce qui est criminel, c'est quand l'autre dérape et passe la ligne. Donc, on est encore beaucoup là-dedans, hein. Ne serait-ce qu'en agression sexuelle, le nombre de fois où on entend, ça se peut pas qu'elle ait été agressée parce que elle a provoqué, elle est habillée comme ci, ou elle est pas assez jolie, ou elle est trop jeune, ou elle est trop vieille, etc. Ça faut qu'on arrête.
Ouais.
Je veux dire, ça a pas rapport. S'il y avait une connexion statistique directe entre le physique, les vêtements, le comportement et le crime, ça fait longtemps qu'on serait tous à la retraite sur une île paradisiaque. Les criminologues, là, ça marche pas de même.
Et est-ce que, mettons, un gars qui est impulsif puis agressif, là, tu sais, cette personne-là réussit? Puis j'utilise un gars, là, ça pourrait être n'importe qui d'autre, là, mais comment cette personne-là peut réussir à contrôler ça? Est-ce que c'est vraiment par la psychothérapie? Il faut qu'il soit accompagné?
Ben oui, il faut qu'il soit accompagné. Alors, sauf si on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas beaucoup de... Le réseau pour les hommes, il n'est pas beaucoup aidé en ce moment. Je pense que là, ça va mieux. Là. On commence enfin à en parler. Puis, il y a des organismes incroyables aussi qui essaient de venir en aide aux hommes et qui ne sont pas très nombreux, qui ne sont pas très bien financés, qui ne sont surtout pas très, très connus. Je pense que c'est très important, si les hommes nous écoutent, commencent pas tout de suite. Si on parle toujours d'impulsivité, de violence, etc., on va retomber dans ce qu'on parlait au tout début de ton émission. C'est-à-dire que l'immense majorité du monde ne va pas se sentir concernée. Donc moi, je ne suis pas violent, je ne suis pas...
Ouais.
Bon. C'est pas... La violence, elle se construit. Il y a personne qui se réveille, qui naît violent.
Ça se bâtit.
Ça se bâtit aussi, okay. Et pas que par la psychologie. Donc la psychologie est probablement un facteur. Là, après, il y a plein d'écoles. Il y a ceux qui pensent que oui, il y a ceux qui pensent que non, il y a ceux qui pensent que oui, mais ça dépend, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et la place de la société, elle est énorme aussi. Ne serait-ce que par la pression qu'on met, ne serait-ce que par le silence qu'on provoque, par le mensonge qu'on provoque. Je veux dire, un homme qui a des besoins ou qui a besoin d'aide en ce moment, dans la société qu'on a, il est mal pris pour aller le dire. Je vois pas... Juste, on fait l'exercice, toi puis moi. Essaye donc d'aller voir quelqu'un en disant « J'ai des problèmes de violence, qu'est-ce que je fais ?» Faut avoir du courage en tabarnouche pour être capable de faire ça. Puis... Et donc, c'est ça. Donc, voilà, ça, c'est un bout sur lequel on va devoir faire beaucoup d'efforts, que donner les moyens aux hommes aussi de comprendre, de réaliser, de trouver les moyens éventuellement d'en parler. De se poser des questions, tout simplement.
Et la plus grande, comme, qu'est-ce que vous observez, comme, qu'est-ce qui amène à la violence conjugale? Est-ce que c'est de la détresse psychologique? Est-ce que c'est évidemment la relation toxique? Mais c'est quoi les... Qu'est-ce qui amène à ça? Qu'est-ce qui fait que ça se rend là?
Mais ça, ma discipline, elle est construite sur cette question-là. Qu'est-ce qui amène un criminel à devenir un criminel? Amuse-toi. Mais alors, en violence conjugale, on sait un peu les facteurs qui reviennent le plus souvent. Donc, effectivement, c'est... Il n'y a personne... On n'a pas de grille magique où les gens vont se reconnaître en cochant des petites cases. Là.
Ouais. Hein.
Donc, il y a aussi... il y a ça commence par la relation de la construction d'une relation d'emprise, par l'isolement de la conjointe. Et donc ça, c'est pas gestuel, c'est beaucoup verbal ou dans les attitudes. L'explication la plus entre guillemets vraie de la violence conjugale, elle est sociale, elle est dans la manière dont on distribue en ce moment les rôles, mais c'est une manière un peu... je sais pas, tout le monde lève un peu les yeux au ciel quand on dit ça, mais non, les rôles hommes-femmes, puis bon, c'est aussi beaucoup comme ça que ça commence. Donc,
à l'intérieur d'une famille ou d'une maison
tout à fait,
ou d'un
oui.
couple.
Puis ça, il faut qu'on évolue socialement pour ça. Voilà, après, il y a plein de dimensions au passage à l'acte, il y a des dimensions relationnelles, psychologiques, puis il y a des dimensions aussi contextuelles. L'alcool, la drogue, ça aide pas. La pression ou le fait de perdre son emploi le matin, ça aide pas. Donc il y a plein de choses. En criminologie, on a des spécialistes assez différents de tous ces éléments-là. Voilà.
Okay.
Donc personne étudie le criminel tout court. C'est-à-dire, on essaie de chacun tous faire un bout.
Ouais. Et là, j'imagine que la pandémie a fait en sorte que l'isolement,
oui,
c'est fait de manière plus facile, entre guillemets.
Oui. Et l'isolement, on ne parle pas simplement de gens confinés dans une maison. On parle qu'on ne peut plus voir nos amis, on ne peut plus voir nos familles. C'est-à-dire que les personnes à qui on parlait pour valider des signes, oups, il m'a dit ça, c'est-tu normal? Ben, on ne les a plus en ce moment. Ou alors on les a au téléphone quand on ne peut pas parler parce que les autres sont à côté.
Ouais, c'est ça.
C'est surtout ça qui a isolé. Je pense que ce n'est pas tant le fait d'être enfermé dans une pièce.
Ouais.
J'ai beaucoup entendu ça dans la presse. Oui, l'isolement, on est tous pognés chez nous, fait qu'on se chicane. Oui, alors ça, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'avant, on pouvait...
On avait des ressources.
On pouvait lâcher la pression. Déjà, le fait de sortir, d'aller au travail, tout ça, ça peut calmer, apaiser, ou en tout cas, ça...
Ouais.
C'est ça, lâcher la pression. Puis il y avait aussi des moyens de canaliser. Il y avait un tampon social à cette violence. Là, il a un peu disparu. Donc effectivement, ça augmente ça, énormément. Puis quand on va déconfiner, ça va augmenter aussi, puisque l'on va passer dans l'extrême inverse. Tout le monde va ressortir dehors.
Ah oui, ouais. Tu crois que ça va faire la même chose?
Je sais que certaines de mes collègues sont assez inquiètes avec le déconfinement. Je pense qu'il va y avoir probablement... ce ne sont pas mes recherches à moi qui déduisent ça, mais dans le réseau de la violence conjugale, certaines de nos collègues, et à raison, à mon avis, sont assez inquiètes. Parce que quand on va déconfiner d'un coup, il va falloir un moment que les habitudes se reprennent et ça se peut qu'on ait un peu des...
Donc, recommencer à sortir, recommencer à se préparer pour aller au resto.
Au niveau des agressions sexuelles et tout, on sait pas trop où on s'en va. On est vigilante, là, on regarde. On pense que va y avoir une petite augmentation de déconfinement.
Ah, mon Dieu! Colique! Puis là, c'est ça l'affaire, c'est que la seule chose qu'on peut faire, c'est en parler.
Oui, absolument. En parler.
C'est dire, faites attention.
Faites attention autour de vous. Mais en parler avec bienveillance.
C'est
aussi.
Ça.
Voilà, je pense qu'on n'aide pas du tout quand on crée des clivages, quand on monte les hommes contre les femmes, les institutions contre la société. Je pense que, on a besoin de travailler tous ensemble en ce moment, plus que jamais. Voilà. Sans avoir de discours angéliste, là, je veux pas non plus.
Et mettons, là, en ce moment, on est encore en confinement. Donc, l'isolement, comme on vient d'en parler, se poursuit. Comment les personnes font pour s'en sortir? Les lignes qu'on a nommées tantôt, les lignes téléphoniques, j'imagine qu'il y a des sites Internet aussi?
Des sites Internet, des lignes téléphoniques. Voilà, c'est pas toujours facile. Hein. Si on a un seul ordinateur et qu'il est dans le salon, c'est pas toujours évident. Donc, et c'est un peu ça qui est difficile en ce moment. C'est parce que c'est difficile aussi. D'habitude, on peut au moins appeler à l'aide quand on réalise qu'il se passe quelque chose.
Ouais.
On peut toujours partir quelque part ou appeler à l'aide. Puis ça, en ce moment, c'est un peu plus difficile.
Ouais.
Il y a vraiment des femmes en danger au moment où on se parle, oui, des enfants aussi.
Mmh. Mmh. Donc, il faut trouver le moyen qu'elles puissent communiquer avec quelqu'un.
Tout à fait.
Mon Dieu, on dirait que c'est stressant. Caroline, d'abord.
Oui, c'est stressant. Ouais.
Et quand tu dis que tu vois des cours changer chez les jeunes et dans les écoles où tu assistes, c'est quoi le changement que tu vois dans l'éducation? C'est qu'on parle d'agression sexuelle. Avant, on n'en parlait pas aux jeunes.
Oui, il commence à y avoir... Alors là, on n'est plus du tout dans mon domaine de travail.
Non.
C'est une observation de personnes comme une autre. Je trouve que le vocabulaire des jeunes a déjà beaucoup augmenté. Je pense qu'il y a des mots... moi, j'ai entendu agression sexuelle récemment dans la bouche de plusieurs enfants. J'en ai déduit qu'ils ont des cours à l'école, dans les cours d'éducation à la sexualité. Voilà. Après, je ne sais pas comment c'est présenté et tout ça. Je ne suis vraiment pas spécialiste de ça. J'ai certains de mes collègues qui travaillent là-dessus. Puis chacun son domaine après. Hein. Je pense que c'est très, très bien fait. Mais il y a beaucoup plus on laisse plus aller les comportements de harcèlement, on voit beaucoup plus de choses, je pense que voilà.
Et les étudiants à qui t'enseignes, la plupart c'est des gens qui veulent devenir criminologues ou avec un bac en criminaux, tu peux aller vers d'autres avenues?
Oui, tout à fait. Tu sais, quand on parle de criminologue, il faut savoir aussi que c'est une profession ordrée, la criminologie. Moi, je ne suis pas criminologue, je suis professeure de criminologie.
OK.
Pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas. Mais nos étudiants peuvent devenir donc, des criminologues ordrés, mais peuvent aussi entrer dans les professions de la criminologie ou du travail social en général, ou même de la psychologie, de l'intervention. Donc, c'est un monde... Qui est assez large. Donc, il y a beaucoup de débouchés très, très différents. Essentiellement, c'est une profession qui consiste à faire de l'intervention sur des personnes qui sont dans des situations d'infraction ou de victimisation, et donc dans le monde des adultes ou de la jeunesse.
Donc, ça doit prendre énormément d'empathie, mais en même temps de détachement, là, tu sais, parce que c'est quand même... C'est intense, c'est comme milieu
intense,
de travail.
Ouais.
Là, donc,
mais pas beaucoup moins que les pompiers, les policiers, les sans rendez-vous, qui sont de très, très loin les premiers sur les lieux à chaque fois.
Ouais.
Nous, on arrive un peu après, juste assez après.
Mais quand même, tu sais, accompagner une victime, c'est du stock.
Oui, tout à fait.
C'est
des professions qui sont fantastiques, oui. Qui sont très demandantes, très exigeantes, pour lesquelles il faut faire beaucoup d'études, qui sont difficiles au quotidien et qui sont relativement mal payées. Oui.
C'est ça qui est fou. C'est tellement important en plus.
Mais oui.
Mais on garde espoir. C'est ça qu'on comprend. Catherine,
il y a
de l'optimisme.
Bien sûr. Puis je sais qu'on est, pour mettre un mot positif, c'est qu'on est au Québec. On se remet énormément en question, on compte tout ce qui ne va pas, etc. Mais on est très, 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 très mieux placé que beaucoup, beaucoup d'autres pays. Je pense qu'on est un des endroits sur la Terre où c'est quand même le moins pire. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir des fois se féliciter un petit peu. Voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est super. Moi, dans mon domaine, en tout cas, on n'en a jamais autant parlé, il n'y a jamais eu autant d'initiatives, il n'y a jamais été autant question de financer, de discuter, de se réveiller. Voilà, juste ça, c'est formidable. Je pense qu'on a... c'est quoi les étapes ? Ben déjà, la première, je pense qu'elle est faite et c'est super. Donc, on continue et puis on ne lâche pas. Et on va y arriver. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on essaye, oui.
Ah, je souhaite tellement, là, mon Dieu. Mais merci vraiment d'avoir accepté mon invitation.
Mais merci à toi.
Catherine, salue tous tes collègues de ma part.
Puis, ce sera fait.
Je salue aussi les gens qui travaillent activement aux premières lignes pour arranger tout ça. J'espère que ça va avoir aidé quelqu'un. Donc, merci vraiment beaucoup.
Merci à toi.